France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Le hasard, quand la philosophie joue au dé, c'est le sujet de notre série cette semaine. Aujourd'hui, les probabilités ou la science du hasard. Nous avons mentionné dans notre premier épisode l'invention des probabilités par Pascal au XVIIe siècle. C'est en correspondant avec un autre penseur et mathématicien de son siècle, Pierre de Fermat, que Blaise Pascal a mis au point les bases du calcul des probabilités en introduisant notamment la notion d'espérance mathématique. Ce fut le début d'une longue histoire dans laquelle s'illustrent Pierre-Simon de Laplace, à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles, Antoine-Augustin Cournot, en plein XIXe, Henri Poincaré au tout début du XXe, ou encore Émile Borel, qui s'est éteint en 1956. Ce chapitre majeur de l'histoire des mathématiques appartient aussi à l'histoire de la philosophie, car la question sous-jacente est, face au phénomène de hasard qui la déroute, la raison humaine peut-elle mettre quand même un peu d'ordre, acquérir un peu de savoir dans l'incertitude ? Dieu peut-être, s'il existe, sait tout des causes véritables de ce qui nous apparaît hasardeux, ou disons plutôt du point de vue du tout qu'est le monde, peut-être le déterminisme est-il parfait, mais pas pour le cerveau humain qui n'a que des outils approximatifs comme les probabilités. Cela dit, peut-être que demeure même du point de vue le plus haut et le plus total qui puisse exister pour contempler le monde, des événements purs, produits par exemple par la liberté humaine, si on en croit disons la version la plus radicale, voire engendrée par la matière et l'énergie physique elle-même qui produit des événements inattendus. Les probas, comme disent les matheux, nous parlent de tout cela. Et nous, ce matin, eh bien, nous parlons des probas. Bonjour Laurent Masliac.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à Sorbonne Université, spécialiste d'histoire des mathématiques, singulièrement de la période du début du XXe siècle, puis de l'entre-deux-guerres. Et bonjour Mathilde Escudero.
Bonjour.
Vous êtes en train de réaliser votre thèse de doctorat à l'École normale supérieure. C'est une thèse qui porte sur la conception perspectiviste du hasard dans les théories scientifiques. Titre pas du tout évident pour les novices dont je suis, mais ce qui est en tout cas très clair, c'est que la question du hasard en sciences est votre spécialité.
Bonjour, je m'appelle Calvin, j'ai 9 ans. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut gagner au loto en cochant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci, au revoir.
Dites-nous, Michael Launay, vous qui êtes mathématicien, on est en plein dans les probabilités, là c'est votre domaine.
Exactement, oui. Quand on veut étudier le hasard en mathématiques, eh bien, on fait appel à cette fameuse théorie des probabilités qui a été inventée d'ailleurs par des mathématiciens français. C'est notamment Blaise Pascal et Pierre de Fermat qui ont été les premiers à mettre les premières pierres de cette théorie des probabilités. Alors c'est très intéressant, Calvin, évidemment, c'est une question qu'on se pose beaucoup. C'est-à-dire que dès qu'on parle de hasard, on pense au jeu de hasard et notamment au loto. Alors oui, il est possible de gagner en jouant les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah !
Mais en fait, il y a autant de chances de gagner, quels que soient les numéros qu'on joue. Par contre, quand on joue au loto, il y a quelques petites astuces qui peuvent modifier quand même la façon dont on peut jouer. On n'aura pas plus de chances de gagner, mais par contre, on aura plus de chances de garder tout l'argent si jamais on gagne. C'est en sachant, par exemple, que les gens ne jouent pas au hasard en général. Par exemple, les gens jouent beaucoup les dates de naissance de leurs proches ou des choses comme ça. Et les dates de naissance, eh bien, le numéro du mois se trouve entre 1 et 12. Et le numéro du jour dans le mois se trouve entre 1 et 30. De cette façon, si on joue les nombres plutôt après 30, eh bien, si on gagne, on a plus de chances qu'il n'y ait pas d'autres joueurs qui aient joué les mêmes numéros que nous. Et donc, on a plus de chances d'avoir le gros lot pour nous seuls et de ne pas avoir à le partager avec un autre joueur.
Vous aurez sans doute reconnu la tendre émission de France Inter, Maman les petits bateaux. Et là, c'était une émission de mars 2024 consacrée au jeu, JEUX, avec une question d'enfant au début, comme toujours, et les explications du mathématicien Michael Launay. Si j'ai bien compris ce qu'il dit, d'abord, il commence par nous dire, Laurent Masliac, que si on joue 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a autant de chances que si on joue 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Au fond, à chaque fois qu'il y a une incertitude, quelque chose qui relève du hasard pour l'esprit humain, il y a, je veux dire, le fait qu'un numéro soit tombé ne l'empêche pas de retomber la deuxième fois. Voilà.
Oui, ça, bien entendu. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant dans la réponse que fait Michael Launay, c'est le fait de tout de suite souligner qu'il s'agit d'une question d'information. C'est-à-dire que là, la façon dont on peut agir, disons, sur le hasard, sur les probabilités, c'est en ayant des informations supplémentaires. Donc, c'est ce qu'il fait en disant que, bah, comme les gens ont tendance à jouer plutôt leur date de naissance, par exemple, on a moins de chances qu'ils aient joué un nombre qui ne puisse pas être un mois, donc 13, 14 ou ce genre de choses.
Donc là, c'est, en fait, tout peut tomber, ça ne change rien, mais on sait qu'il y a, si jamais il y a un numéro qui gagne,
oui, parce qu'il y a une question
plutôt...
de répartition des mises. Oui. Donc évidemment, il ne faut pas que tout le monde ait joué la même chose, sinon le gain éventuel, évidemment, sera moins grand.
Donc ce n'est pas le hasard que l'on change, parce que voilà, il est là. C'est le fait que s'il y a un numéro qui tombe, si ce numéro est plutôt entre un certain nombre de entre 1 et 31 et qu'il tombe, plein de gens l'auront joué.
Oui, c'est lié à une question de règles de répartition des mises, en fait. Mais ça change rien effectivement sur l'expérience aléatoire qu'il y a au départ.
Alors je vais demander aussi évidemment à Mathilde Escudero de préciser cela. Est-ce qu'il y a un usage des probas pour les numéros eux-mêmes? Bien sûr que non. Si, le numéro est en quelque sorte simple, donc on peut très bien utiliser la proba pour savoir si un numéro a un nombre de a une chance de sortir, ça oui.
Oui, tout à fait, mais je pense que ce qui est important de souligner, c'est que les tirages sont indépendants les uns des autres. Et donc, quand vous disiez tout à l'heure que l'on peut tomber sur 1, 1, 1, 1, 1, c'est parce que chaque tirage est indépendant l'un de l'autre. Et donc, c'est pas parce que le 1 est déjà sorti qu'il ne peut pas ressortir ensuite. Je crois que c'est important de souligner cet aspect-là qui, je pense, du point de vue de l'esprit humain, n'est pas évident. On a des biais psychologiques qui font qu'on a tendance à penser que s'il est déjà tombé, il ne pourra pas retomber. Alors qu'en termes probabilistes, et je parle sous le contrôle de mon collègue mathématicien, c'est tout à fait possible.
Alors, la question que je voudrais maintenant aborder avec vous, c'est est-ce que les jeux d'argent, précisément, ont compté dans l'histoire des maths pour qu'on avance sur le terrain des probabilités?
Alors, compter sur dans l'histoire des maths par ricochet, j'allais dire oui, parce que effectivement, c'est au XVIIe siècle que, en particulier donc Pascal et Fermat, se sont attachés à des questions qui sont liées à des questions de jeu et de jeu d'argent, alors les raisons sont complexes, mais il y a deux choses qu'on peut mettre en avant. D'abord que le hasard, la question de la présence du hasard, d'un phénomène de hasard est quelque chose qui, si on creuse un peu, a tendance à un peu s'opposer à un déterminisme et en particulier à penser que Dieu, évidemment, gouverne absolument tout ce qui se passe, et donc envisager une issue qui puisse éventuellement ne pas être prévisible, disons, par Dieu, est quelque chose évidemment d'impensable. Et donc on s'est concentré sur les aspects, disons, les plus évidents, les plus minimaux du hasard, qui sont les jeux de hasard. Et en particulier liés à l'argent, et là intervient un autre phénomène. Pourquoi on s'intéresse à l'argent? Parce qu'évidemment, c'est une époque, alors déjà dès le siècle précédent, où les aspects monétaires sont de plus en plus présents, et les risques attachés aux questions monétaires, c'est-à-dire les questions déjà d'assurance, le fait de par exemple, organiser des expéditions lointaines, on a besoin d'avoir quelqu'un qui investit, a besoin de savoir un peu ce qui se passe. Donc, avoir une façon scientifique, rationnelle, d'approcher cette question de l'inconnu, de l'imprévisibilité du résultat, s'est posé de façon prégnante à ce moment-là.
Mathilde Escudero, est-ce que les jeux d'argent, mais aussi les assurances, et peut-être après d'autres choses comme les statistiques qui permettent de savoir quel est le risque pour tel individu selon sa situation médicale, génétique, sociale, etc., de rencontrer telle ou telle chose, est-ce que tout cela est à l'horizon toujours des maths
qui font de la probabilité. Est-ce que finalement c'est le terrain de jeu, si j'ose dire, des mathématiques et quasi naturel à l'esprit, vous qui travaillez vraiment sur les mathématiques aujourd'hui, les probas aujourd'hui, etc.
Alors, la question des jeux, comme vous le rappeliez, a été très importante au moment de l'invention de la probabilité au XVIIe siècle, par la correspondance de Pascal avec Fermat. C'était, comme vous le disiez, Laurent Masliac, une question assez facile, parce que finalement, les jeux sont des questions de combinatoire assez simples. Mais en effet, ensuite, l'histoire des sciences va reprendre cet outil et l'appliquer à des problématiques beaucoup plus complexes, notamment, je pense, aux sciences sociales, avec, comme vous le disiez aussi, au XVIIe siècle, les tables de mortalité qui permettront de faire des calculs pour les rentes viagères. Et donc, il y a des enjeux financiers, vous le rappeliez également. Et puis, plus tard, il va y avoir l'invention de la sociologie qui va utiliser aussi cet outil-là, qui va en effet étendre les statistiques à des problématiques, encore une fois, beaucoup plus complexes que celles que l'on trouve dans les jeux de hasard. Ensuite, ce sera exporté, et c'est intéressant de le souligner, ça a été exporté des sciences sociales à la physique. La physique s'est inspirée des sciences sociales, et ce n'est pas si courant dans l'histoire des sciences, à la fin du 19e, avec l'invention de ce qu'on appelle la physique statistique, et qui se décline en divers aspects. On pourra revenir là-dessus. Et a continué à se développer au 20e, ensuite, dans vraiment toutes les sciences. Donc cet outil qui, au départ, permettait de calculer, on va dire, de faire des calculs dans des problématiques assez simples et réduites, s'est étendu et a permis de calculer des phénomènes qui sont beaucoup plus complexes.
Et par exemple, l'espérance de vie,
oui,
c'est une moyenne.
Tout à fait.
Ce n'est pas une probabilité. Néanmoins, est-ce que n'est pas attaché à cette notion d'espérance de vie une dimension probabiliste en mathématiques?
Tout
et
à
si
fait.
Oui, comment vous, qui êtes un peu matheuse, expliquez-nous.
Alors, je suis plutôt philosophe, mais sur les aspects précis de mathématiques, je laisserai peut-être Laurent Masliac compléter. Mais en effet, la probabilité s'articule aux statistiques. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que les statistiques, elles rendent compte de phénomènes empiriques, réelles. Elles ont trait à la réalité, alors que la probabilité, elle est a priori, elle est indépendante, si vous voulez, de la réalité. Donc, en effet, ce sont deux volets qui sont reliés. Et une des interprétations, on pourra revenir là-dessus, mais une des interprétations philosophiques de la probabilité, qui est très, on va dire, centrale dans l'interprétation des probabilités, c'est l'interprétation qui est dite fréquentiste, qui en effet associe et réduit la probabilité à des fréquences d'apparition dans une suite finie ou infinie. Il y a des débats sur ce sujet-là, et les philosophes se positionnent différemment.
Ça marche bien pour le loto. Fréquence, non? Je sais pas. Ça marche pour. J'ai du mal à voir, en fait. Mais continuez, expliquez-nous.
Alors,
c'est difficile. Enfin, c'est difficile. Donc, l'approche fréquentialiste, oui, des probabilités, oui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit exactement?
Alors, elle nous dit que finalement, la probabilité, ça renvoie à quelque chose de réel, d'objectif. Donc c'est ce qu'on appelle une interprétation objectiviste ou physique de la probabilité, qui tout simplement renvoie à la fréquence d'apparition d'un événement dans une suite. Donc imaginez la probabilité que vous prenez un dé, vous le jetez, vous avez une chance sur 6 de tomber sur la face 1. Et bien ce que nous disent les fréquentistes, c'est que cela est vrai parce que si l'on jetait ce dé une infinité de fois dans une suite, bon, finie ou infinie, encore une fois, 1000 fois, admettons, et bien un sixième de ces 1000 fois, nous tomberions sur la face 1. Et donc finalement, ce que nous disent les fréquentistes, enfin les défenseurs de l'interprétation fréquentiste, c'est que la probabilité n'est autre que la fréquence d'apparition dans la réalité, si vous voulez, ou virtuellement, on peut imaginer que ce soit pas forcément réel, mais virtuellement, si on lançait le dé 1000 fois, eh bien il y aurait un sixième de ces lancers qui tomberait sur la face 1.
Donc sauf que ce n'est pas toujours vrai, je suppose que
sauf
si
que
on
ce
le
n'est
lance
pas toujours
une fois. On...
Et ça c'est le et ça c'est la beauté, je trouve, de la probabilité, du sujet de la probabilité, c'est que disons que cette probabilité, elle est elle-même probable. On a une sorte de méta probabilité, elle n'est pas en effet certaine.
C'est pour ceux qui aiment les concepts ce matin, ça me paraît tout à fait approprié. Laurent Masliac, sur cette histoire de fréquentisme fréquentialisme, je me suis trompée, je crois qu'on dit fréquentisme, ouais, dans la vision des probabilités. Vous pouvez nous préciser un certain nombre de choses?
Alors, par rapport à ce que disait Mathilde, la question est de savoir si, pour ainsi dire, si c'est la seule interprétation qui est possible. Et en fait, l'interprétation fréquentiste, une façon de la comprendre, c'est que l'exemple que Mathilde prenait, c'est-à-dire le fait de jeter un dé ou jeter une pièce peut-être, puisqu'il y a une chance sur deux, donc il y a que deux issues possibles, est, disons, la seule expression de ce qu'on peut appeler le hasard. C'est-à-dire que le hasard provient d'une répétition, effectivement, indépendante, de la même expérience. Et à ce moment-là, donc ce qu'on disait, si on lance un très grand nombre de fois une pièce de monnaie, eh bien on observera que on a à peu près la moitié des fois face, à peu près.
Mais l'interprétation
fréquentiste, c'est que asymptotiquement, donc c'est évidemment une interprétation mathématique dans ça, c'est une définition mathématique. La définition fréquentiste, c'est que la probabilité est définie comme l'asymptotique de cette fréquence. Évidemment, la question est de savoir si le hasard ne peut se produire que dans cette situation de répétition d'une même expérience.
Mais déjà dans cette expérience, si on jette 20 fois un dé, on peut faire l'expérience tous les jours. C'est peut-être même rare qu'on ait 10 fois une face, 10 fois l'autre.
Absolument, c'est pour ça.
Est-ce que le caractère asymptotique, c'est que si on le lançait 20 milliards de milliards de milliards de fois, là, normalement, nous dit...
De toute façon, j'allais dire, pour un mathématicien, ouais, 20 milliards de milliards, ouais, ou 20, ça change pas grand-chose par rapport à l'infini.
Le même nombre de fois où...
Dit l'interprétation fréquentiste, c'est que si on le jette, ce par quoi commençait Mathilde, si on le jette une infinité de fois, la fréquence d'apparition sera effectivement, donc dans le cas d'une pièce de monnaie, sera une fois sur deux, on aura eu pile. Mais c'est évidemment une idéalisation mathématique.
Parce que l'infini n'est pas
actualisé. On pourrait dire à notre portée, quoi.
Disiez qu'il y a une autre interprétation de la probabilité.
Il y a tout un spectre d'interprétations. Mais peut-être pour prendre l'interprétation peut-être la plus diamétralement opposée, qui serait l'interprétation subjectiviste, donc qui s'oppose à une interprétation objectiviste, qui est celle justement proposée par les fréquentistes, disant la probabilité, comme disait Mathilde, est quelque chose de réel. C'est une constante physique, si on veut faire cette comparaison. Donc une réalité du monde physique. L'interprétation subjectiviste, qui a été en particulier prônée de la manière peut-être la plus radicale par le mathématicien Bruno De Finetti, donc un Italien, c'est que en fait la probabilité c'est une fiction pour le coup, et c'est une fiction qui recouvre l'idée qu'on se fait de ce qui va arriver. C'est-à-dire, alors, ce que dit De Finetti, c'est qu'il faut comprendre la notion de probabilité à l'aune d'un pari, en fait. En gros, si vous voulez savoir quelle chance, quelle probabilité vous attribuez à un événement, vous devez vous posez la question, combien je suis prêt à parier, donc on retombe sur des jeux d'argent en quelque sorte, combien je suis prêt à parier sur cet événement-là. C'est totalement subjectif, puisqu'évidemment, ça dépend de ce que la personne, de ce que chaque personne répondra en l'occurrence.
Et maintenant, place à Sacha Guitry, Mémoire d'un tricheur, 1935, cet extrait est lu par Pierre-Olivier.
Il y a 100 façons de tricher, mais il n'y a guère que 3 sortes de tricheurs. Tout d'abord, il y a le joueur qui triche, qui ne triche que parce qu'il joue, qui le fait sans méthode, sans préméditation, d'une manière presque inconsciente, involontaire, et dont on sent très bien qu'il est parfaitement honnête en dehors du jeu. Et il y a l'homme qui joue incorrectement parce qu'il est incorrect d'un bout à l'autre de la vie et qui doit penser que ce n'est pas vraiment le moment de cesser de l'être. Enfin, il y a le tricheur de profession, conscient et organisé. Et je puis dire que je suis le type accompli du tricheur solitaire. Qu'il y ait de plus beaux métiers, qu'il y en ait même de plus lucratifs qui le contestera, mais je n'en connais pas qui soit plus amusant. On est en même temps le chasseur et le gibier. Non, je voudrais m'expliquer sur ce point. On assimile les tricheurs aux voleurs. J'estime qu'on a grand tort. Voler, c'est prendre à des personnes foncièrement honnêtes de l'argent qu'elles n'avaient pas exposé. Et ça, c'est très mal. Tandis que tricher, c'est contrecarrer les intentions du hasard et c'est s'approprier des sommes que les gens avaient eu l'imprudence ou la présomption d'engager dans un but répréhensible de lucre et avec le secret espoir d'être favorisés tout à la fois par le destin et par les fautes de leur adversaire. C'est déjouer leur calcul et ce n'est pas seulement s'opposer à l'œuvre du hasard, c'est se substituer à lui. Je triche, donc, le hasard, c'est moi.
Magnifique expression, non ? Qu'en pensez-vous, Mathilde Escudero ? Je triche, donc le hasard, c'est moi. Le tricheur, c'est celui qui parvient à s'approprier complètement le hasard, à l'annihiler.
Oui, c'est vrai que c'est un très bel extrait qui montre à quel point on a tendance à considérer le hasard presque comme une entité qui parfois est contre nous, parfois est avec nous, qui nous porte chance, qui nous porte malchance. Et je crois que c'est intéressant parce qu'on voit que dans l'histoire, cette notion de hasard a été rattachée à celle de destin, à celle de fortune. À un moment, il dit « tricher, c'est contrecarrer les intentions du hasard », comme si le hasard était une personne. Bon, voilà, ça renvoie à une définition assez traditionnelle du hasard comme étant lié, encore une fois, au destin, aux intentions. On peut avoir d'autres définitions du hasard qui n'en font pas une réalité. Donc là, vous voyez, on revient sur cette interprétation objectiviste de la probabilité. On a aussi une interprétation objectiviste du hasard qui est possible, ou physique, qui consiste donc à en faire une entité réelle. On peut également considérer que le hasard, finalement, n'existe pas, n'a pas de réalité, et qu'il est davantage lié à notre ignorance, on le verra peut-être plus tard, et dans ce cas, eh bien, on en a moins peur, si on considère qu'il n'existe pas.
C'est cette ignorance que déteste Sacha Guitry dans ce texte, et lui, il a trouvé des moyens, s'il s'est triché, pour que, à chaque fois, il lui substitue un savoir, celui du tricheur. Si on pouvait toujours faire ça, il n'y aurait plus de jeu de hasard sincère. Et comme on ne peut pas toujours faire ça, on a de l'ignorance et du hasard. Et la seule chose qui nous permet de l'approcher pour réduire un peu sa cruauté, c'est la probabilité.
Oui, alors je reprends ce que dit Mathilde par rapport à l'ignorance, c'est-à-dire c'est ce que Laplace effectivement qui marque un petit peu un moment une pierre d'angle, une pierre de touche sur cette première révolution probabiliste, hein, ce premier essai qui naît donc au XVIIe siècle d'apprivoiser, d'avoir un regard rationnel sur cet inconnu qui est le hasard. Pour Laplace, effectivement, le hasard, ça n'existe pas, ce n'est qu'un autre nom pour notre ignorance. Et ce qu'on propose avec cette théorie des probabilités, ce que propose Laplace, c'est justement d'avoir des outils qui nous permettent de combler notre ignorance et qui nous permettent de raisonner quand même malgré notre ignorance.
Est-ce à dire qu'avant Laplace, qui n'ont écrit, lui, son essai philosophique sur les probabilités en 1814, avant lui, il n'y avait, par exemple, chez Fermat et Pascal, il n'était pas totalement déterministe, ou bien il l'était d'un point de vue, comme disent les philosophes, métaphysique, Dieu sait, Dieu a tout, Dieu est c'est tout, s'il existe, parce qu'il croyait qu'il existait. Mais nous pouvons un tout petit peu maîtriser par un peu de savoir, notamment par la notion d'espérance en mathématiques, certaines choses. Et Laplace rappelle que oui, le déterminisme est total, divin ou pas divin, mais il nous reste les probas. Quelle est la différence, si vous voulez, dans l'évolution des mathématiques entre Pascal, Fermat et la place. Alors, qu'est-ce qui bouge ?
Ce qui est certain, si on commence par la place, c'est que il se débarrasse de l'idée divine. Hein, il y a dans son texte un fameux passage où il parle de la saine philosophie, qui est clairement celle qui ne va pas avoir besoin de faire appel à des causes extérieures. On connaît le fameux échange entre la place et Napoléon quand la place lui a présenté son système du monde et que Napoléon lui aurait demandé et Dieu dans tout ça, et la place répondant « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse.
» Donc lui, il est déterminé, il pense que l'homme a accès
totalement déterministe.
Mais
par contre,
pour le cerveau humain.
Alors justement, mais notre ignorance est là, nos limites sont là. Donc notre ignorance, elle existe. Hein, lui-même dans son texte dit bien que quelqu'un a une volonté qui connaîtrait toute la place des différentes particules qui composent l'univers serait capable de prédire le futur, le présent et le passé. Mais on a le cerveau humain, il a cette limite. Donc l'ignorance, elle existe, et on a besoin d'outils rationnels. C'est ça qu'il propose avec le calcul des probabilités.
On l'écoute. Laplace, en 1814, essai philosophique sur les probabilités.
Tous les événements, ceux mêmes qui, par leur petitesse, semblent ne pas tenir aux grandes lois de la nature, en sont une suite aussi nécessaire que les révolutions du soleil. Dans l'ignorance des liens qui les unissaient au système entier de l'univers, on les a fait dépendre des causes finales ou du hasard, suivant qu'ils arrivaient et se succédaient avec régularité ou sans ordre apparent. Mais ces causes imaginaires ont été successivement reculées avec les bornes de nos connaissances et disparaissent entièrement devant la saine philosophie qui ne voit en elles que l'expression de l'ignorance où nous sommes des véritables causes. Les événements actuels ont, avec les précédents, une liaison fondée sur le principe évident qu'une chose ne peut pas commencer d'être sans une cause qui la produise. Cet axiome, connu sous le nom de principe de la raison suffisante, s'étend aux actions mêmes que l'on juge indifférentes. La volonté la plus libre ne peut, sans un motif déterminant, leur donner naissance. Car si, toutes les circonstances de deux positions étant exactement semblables, elle agissait dans l'une et s'abstenait d'agir dans l'autre, son choix serait un effet sans cause. Elle serait alors, dit Leibniz, le hasard aveugle des épicuriens. L'opinion contraire est une illusion de l'esprit, qui, perdant de vue les raisons fugitives du choix de la volonté dans les choses indifférentes, se persuade qu'elle s'est déterminée d'elle-même et sans motif. Nous devons donc envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre.
Tout est déterminé pour Laplace, mathématicien, philosophe comme on l'entend. Est-ce que ça veut dire que lorsque nous aurons plus de savoir, nous pourrons nous passer des probabilités? Les probabilités sont un moment, parce que nous n'avons pas accès à toutes les causes, mais est-ce que Laplace, dans son déterminisme dur, comme vous dites, je crois, tous, pense qu'un jour, nous aurons mieux, sur plein de sujets, que les probabilités?
Alors oui, je pense que Laplace a en effet en tête que, à terme, on pourra se passer de la probabilité. Et pourquoi est-ce qu'il pense cela? Je pense qu'il faudrait rappeler d'abord quelques éléments de contexte. Ce passage qui est très célèbre de ce texte de l'essai philosophique sur les probabilités, qui nous donne ce qu'on appelle la définition du déterminisme dur, la définition du déterminisme classique, qu'on appelle aussi laplacien, s'insère dans un contexte qui est celui de la science newtonienne. Laplace a en tête, d'une certaine manière, une image classique du monde qui donc est celle de l'image, enfin, pardon, de la physique newtonienne. Or, cette mécanique newtonienne, elle est déterministe, en ce sens que elle a recours à des équations différentielles qui n'ont qu'une seule solution. À partir des conditions initiales, on a une seule solution. Donc, je rappellerai rapidement la mécanique newtonienne. Ça permet de décrire le mouvement de certains objets. objets macroscopiques, des objets célestes, mais aussi, on peut imaginer une balle. Si vous jetez une balle en l'air et que vous connaissez la position initiale de la balle, la vitesse avec laquelle elle a été jetée, vous êtes capable, avec les équations newtoniennes, de prédire la trajectoire de cette balle. Et il n'y en a qu'une. Donc c'est bien un déterminisme, comme vous dites, dur. Je pense que c'est important de rappeler cela parce que Laplace, il écrit cet essai donc en 1814, plus d'un siècle après les Principia de Newton, et il a donc été témoin des succès prédictifs de la science newtonienne. La science newtonienne, elle a permis notamment, encore une fois, de prédire des mouvements de planètes. Il y a notamment l'exemple qu'on prend de manière paradigmatique pour rendre compte des succès prédictifs, c'est le retour de la comète de Halley, qui a été prévu grâce aux calculs permis par la science newtonienne. Et donc, si vous voulez, Laplace, en un sens, il ne doute pas du fait que si on est capable de prédire le retour d'une comète avec précision, quasi exacte au niveau du jour, eh bien, on sera capable de prédire absolument tout. Donc ça, c'est les éléments de contexte que je voulais rappeler. Et je voulais aussi préciser que sa définition donc du déterminisme laplacien, on la réduit souvent à un aspect qui est cet aspect de qu'on peut appeler de prédictibilité. Mais en effet, c'est en réalité c'est un des deux aspects de la définition. La définition, elle a deux volets. D'un côté, elle est métaphysique, c'est-à-dire qu'elle porte sur le monde en tant que tel, la réalité en tant que telle qu'elle est indépendamment de nous. Donc, si vous voulez, c'est l'idée que les conditions initiales d'un système ou du monde et les lois de la nature déterminent de manière univoque l'évolution de ce système. Si vous voulez, à l'instant T, vous avez les conditions initiales, vous avez les lois de la nature. À l'instant T plus 1, c'est déterminé de manière univoque. Donc ça, c'est le volet métaphysique, ontologique de sa définition. Et ensuite, il y a le deuxième volet, qui est le volet qu'on retient habituellement, qui est le volet donc plutôt épistémologique, donc qui a trait à la connaissance, et qui est donc ce qu'on peut appeler la prédictibilité. C'est l'idée que, à partir d'une connaissance de ces lois initiales, de ces conditions initiales, pardon, et de ces lois de la nature, on sera capable, si on connaît de manière infiniment précise les conditions initiales, ce qui n'est pas notre cas en tant qu'humain, on a une connaissance qui est finie, qui n'est pas infinie, et des lois de la nature, on sera capable de prédire l'évolution. Donc il y a ces deux aspects dans la définition, un aspect métaphysique, un aspect épistémologique, et je crois que c'est important de les dissocier, donc de les distinguer, parce qu'on va voir plus tard apparaître des systèmes physiques dans lesquels on a ce qui s'apparente à une forme de déterminisme métaphysique, mais on n'a pas de prédictibilité.
Alors, c'est très important ce que vous dites. Je me permets d'y revenir. En plus, vous avez employé quasiment les mêmes mots que Henri Poincaré en 1902 dans La science et l'hypothèse, qui évoque les types d'ignorance que nous avons. Et on peut avoir ignorance de l'état d'un système, en tout cas pour ce qui concerne les conditions initiales. C'est le mot que vous avez vous-même employé. On peut avoir une ignorance qui concerne les lois qui le régissent, et puis on peut avoir une ignorance qui concerne les deux. Et donc, en l'absence de ces informations, on peut utiliser les probabilités. La question se pose aussi, je vous la pose aussi à vous, Laurent Masliac, est-ce que pour Poincaré comme pour Laplace, on pourra un jour, au moins sur le papier, en principe, tout savoir et donc accéder au déterminisme pur? Ou bien la physique est-elle en train de changer complètement, et ça va donner la physique quantique, et pour le coup, il y aura un hasard, j'ai presque envie de dire métaphysique et physique, qui sera irréductible, et on ne pourra jamais se passer des probabilités.
Alors Poincaré est un cas vraiment intéressant parce que il est sur le seuil de ce qu'on peut appeler la deuxième révolution probabiliste. On a dit donc de Laplace que Laplace incontestablement avait cette vision effectivement de fonctionnement du monde, un fonctionnement déterministe. Et Poincaré, qui dans ses études a été nourri à ce lait, Newton et Laplace étaient vraiment les figures tutélaires de la science, était absolument convaincu de ça. Et c'est effectivement un certain nombre d'évolutions de la physique, et en particulier l'émergence de donc ce qu'on va appeler la physique statistique, et en particulier à travers la théorie cinétique des gaz, le fait d'essayer d'obtenir une théorie macroscopique de description de comment un gaz se comporte, qui l'a mis en fait face à un échec. C'est-à-dire qu'il a essayé, quand il a découvert, c'est plutôt donc des savants anglais, Maxwell en particulier, qui ont mis en place donc cette première théorie cinétique des gaz. Poincaré a essayé, disons, de s'en débarrasser. Enfin, en tout cas, a essayé de dire que c'était très ingénieux, mais que on allait sûrement pouvoir faire autrement, justement, avec cet horizon laplacien. Et c'est lui-même, donc, voyant que il n'arrivait pas à faire autrement et que un certain nombre de résultats lui paraissait en fait inaccessible sans avoir une hypothèse probabiliste dans le fonctionnement même du système, Poincaré va donc accepter un peu la main forcée et va décider, donc comme vous le disiez, va décider du coup de circonscrire l'usage des probabilités, de voir quelles sont ce que lui-même appellera les sources du hasard, c'est-à-dire le terrain, le type de situation où il était raisonnable, rationnel pour un scientifique d'accepter une hypothèse de type probabiliste. Donc effectivement, les probabilités deviennent radicales quelque part. Mais, et c'est là où Poincaré est sur le seuil, mais Poincaré restera sur le seuil, c'est-à-dire gardera toujours en tête une sorte d'horizon idéal probabiliste.
Un horizon idéal déterministe. Si un jour on savait plus, eh bien, on n'aurait plus besoin des probabilités. Un peu comme l'effet papillon qu'on lui attribue.
L'effet papillon, pour le coup, c'est une des sources du hasard. Parce que
pouvez-vous nous le repréciser?
Alors, l'effet papillon, l'idée, c'est que une petite cause dans l'enchaînement, une toute petite cause, une cause infinitésimale, oui, pour ainsi dire, dans l'enchaînement peut arriver à produire des grandes conséquences. Et donc, cette multiplication des petites causes, par exemple, dans le cas de la théorie cinétique des gaz, c'est-à-dire que si vous essayez, un gaz, c'est composé d'un très très grand nombre de molécules, et si vous essayez d'appliquer la mécanique newtonienne à chacune de ces molécules, la complexité de la situation fait que vous êtes simplement incapable de le faire.
Donc c'est la complexité et notre incapacité. Bon. Mais voilà. Peut-être que sur le principe, c'est ça ma question, est-ce que sur le principe, si on était capable de bien connaître le processus de toutes les petites causes, on comprendrait parfaitement l'énorme effet que ça a produit. Bah
c'est justement pour ça que
un peu déterministe à l'horizon.
Voilà, c'est justement pour ça que je disais que Poincaré est un cas intéressant sur le seuil, à la frontière. C'est-à-dire que effectivement, là où Laplace était très affirmatif en disant le hasard, ça n'existe pas, ce n'est qu'un autre nom pour notre ignorance, Poincaré remplacerait ça, enfin je parle pour lui, remplacerait ça par le hasard, c'est un autre nom de notre incapacité. Mais une incapacité qu'il conçoit comme radicale. Donc, quelque part, la question, pour lui, ne se pose pas. Elle se pose effectivement dans une espèce d'asymptotique idéale.
De toute façon, ça les a bien perturbés, les physiciens du XXe siècle. On attribue à Einstein la formule « la nature ne joue pas au dé », il est quand même très fâché de voir qu'une certaine physique ne dit pas « Oh, c'est à cause de notre ignorance qu'on fait des probabilités, mais on pourrait à l'horizon un jour idéalement faire du déterminisme. » Mais il voit bien, Einstein, qu'il y a une physique qui est en train de dire « Ah non, 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 la nature joue au dé, il y a du hasard dans la nature. » Et du coup, on ne pourra pas se passer des probabilités. Il n'y a pas de déterminisme. C'est ce seuil-là que vous évoquez, que vous entendez vous aussi, Mathilde Escudero ?
Oui, tout à fait. Alors Einstein parle de la physique quantique, et c'est une physique qui est très différente de la physique classique à laquelle Poincaré s'intéresse. Et les systèmes dont parle Poincaré sont des systèmes, donc vous disiez, dans lesquels on a une disproportion entre des causes et des effets, ou un effet papillon. L'effet papillon, d'ailleurs, c'est un terme qu'on doit à Lorentz, qui est un météorologue de la fin du XXe, enfin des années, je crois que c'est en 1972. Qu'il a fait une conférence dans laquelle qu'il a titré par ce fameux effet papillon, qui est « Est-ce que le battement d'aile du papillon peut provoquer une tornade ?» Le battement d'aile du papillon, pardon, au Mexique peut provoquer une tornade au Texas. Ces systèmes-là, en physique, sont des systèmes classiques, les systèmes dans lesquels on a ce qu'on appelle donc de la sensibilité aux conditions initiales, ou ce que vous appeliez aussi de la disproportion entre cause et effet. Pour expliquer en quoi ça consiste, tout simplement, quand vous prenez un système, vous pouvez imaginer un billard, vous avez une multiplicité de causes qui entrent en jeu, en effet, vous ne pourrez pas prédire avec précision son évolution. Vous imaginez un billard, vous poussez une boule dans une certaine direction avec une certaine force, vous faites quasiment exactement la même chose le coup suivant, et bien l'évolution à long terme sera radicalement différente. Ces systèmes-là relèvent de la physique classique.
Voilà, donc déterministes.
Donc sont déterministes, exactement.
Mais on pourrait en... Idéalement,
en principe, on pourrait. Entendu. Pour Poincaré, moi, je dirais qu'en principe, pour lui, on pourrait. Simplement, de manière pratique, on ne peut pas. Donc, en effet, il est déjà, comme vous dites, sur le seuil. Il annonce ce qui va se passer, qui va être la révolution quantique, qui aura lieu un petit peu plus tard.
Comment a-t-elle changé le rapport de la physique au hasard, cette révolution quantique ?
Alors, de manière vraiment radicale, puisque, en effet, à l'échelle quantique, on constate ce qu'on peut appeler comme une indétermination fondamentale. Il y a un point qui est central en physique quantique, qui est la relation qu'on a appelée au début le principe d'incertitude, et qui ensuite a été renommée la relation d'indétermination. Et vous voyez là, philosophiquement, comment on a changé de conception, parce qu'au départ, on parlait d'incertitude, et peu à peu, on est allé vers l'indétermination.
C'est le principe dit de Heisenberg.
Exactement, tout à fait, le principe de Heisenberg, qui date de 1927. Finalement, on a fini par accepter que c'est une relation d'indétermination, et les mots ont un sens, en ce sens qu'on a fini par reconnaître que peut-être que ça a lieu de manière réelle, ontologique, indépendante de nous. Indépendante de nous, je ne sais pas, parce que ça c'est lié quand même à la mesure. Alors là, on rentre dans des problématiques très complexes, mais et ce que je voulais dire, c'est que Einstein, c'est de ça dont il parle. Il nous parle des systèmes quantiques.
Et il n'y croit pas, il ne veut pas y croire. Il a peur. Il a peur.
Peut-être a-t-il peur, peut-être a-t-il de bonnes raisons.
Je pense à la jolie réponse à distance que lui a faite Stephen Hawking, donc à la fin du XXe siècle, en disant que finalement, on est bien obligé aujourd'hui d'admettre que non seulement Dieu joue au dé, mais qu'en plus il les lance à un endroit où on est absolument incapable de les regarder. Donc il y a une espèce effectivement d'indétermination.
Et donc même lui ne sait pas. Même Dieu ne peut pas savoir. Il y a de l'événement pur dans la nature, c'est ça que ça veut dire.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, ce fonctionnement, disons, de l'infiniment petit, donc la mécanique quantique, nous est radicalement inaccessible. Donc, les probabilités, donc un modèle probabiliste, est absolument incontournable.
Indépassable.
C'est ça la question. Indépassable, absolument.
C'est déjà pas mal, hein, qu'on puisse encadrer le hasard total par des probabilités. C'est quand même un accès minimal à lui.
On peut dire que c'est, dans un sens, c'est l'effet de la première révolution probabiliste. Le fait effectivement de voir qu'il y a une façon rationnelle pour nous d'approcher la question de l'indétermination de ce qui va l'imprédictibilité de ce qui va de ce
et donc
va
pour enfoncer le clou, si j'ose dire, vous concluriez de l'échange qu'on vient d'avoir que tant Poincaré qu'Einstein ont quand même pas mal résisté à cette façon dont la physique quantique, qu'ils ne connaissaient pas, je sais bien, ça arrive après, enfin, à toutes les idées qui pourraient pulvériser l'idée d'une détermination absolue dans la nature. Ils voyaient qu'il y avait des problèmes, mais quelque chose en eux deux résistait.
J'allais dire, je pense que Poincaré ou Einstein sont aussi, comme nous tous, les produits de leur éducation et de la façon dont le monde, dont ils ont conçu le monde à travers leur éducation. Et effectivement, quelque part, le déterminisme a une résistance.
C'est l'idée qu'on préfère, au fond, spontanément. Ça nous est confortable. Si nous ne savons pas exactement toutes les causes, l'idée que quelqu'un, idéalement, avec un cerveau plus puissant que le nôtre, verrait le déterminisme.
Oui, quelqu'un, ou une loi, qui gouverne l'univers. Qui gouverne l'univers, effectivement, il y a une, oui, disons que une pensée, une façon, enfin un aspect confortable de cette pensée, c'est le fait que on a l'impression du coup d'une stabilité. l'erreur un peu naïve qu'on peut avoir, c'est de penser que, et c'est ça sans doute qui a effrayé effectivement les gens qui ont été opposés à cette présence radicale du hasard.
Et aujourd'hui, voilà, tous les physiciens actuels en ont fait le deuil, et les matheux avec eux, puisqu'ils leur fournissent des outils statistiques, des probabilités, et tout le monde sait bien que ce n'est pas juste un problème d'ignorance, c'est un problème de fond. Il y a du hasard radical, effrayant, dans la nature.
Alors, je ne sais pas. En effet, l'interprétation qu'on appelle standard de la mécanique quantique, elle postule cet indéterminisme fondamental, mais il existe d'autres interprétations qui continuent de défendre l'idée que finalement, peut-être qu'il y a ce qu'on appelle des variables cachées dans les systèmes quantiques qu'on n'a pas encore identifiées, et peut-être qu'on peut interpréter de manière déterministe les systèmes quantiques. Donc il y a encore un débat. Disons que l'interprétation standard est quand même celle qui est reconnue et qui est plutôt mainstream aujourd'hui, mais il y a encore un débat.
Alors voici, pour le dernier moment de notre émission, un autre sujet, même s'il y a évidemment des liens entre toutes ces questions, qui est ce que c'est qu'une statistique et ce qu'il faut en déduire. Voici, et puis on va aborder un personnage très important qui s'appelle Émile Borel. Voici un texte de lui, « Le calcul des probabilités et la mentalité individualiste ».
Lorsqu'on prédit que plus de 100 000 Parisiens prendront demain le métro, on n'oblige aucun d'eux à choisir ce moyen de transport. On énonce simplement un fait que l'expérience confirme. De même, si l'on prédit que telle municipalité annonçant l'entreprise de plusieurs millions de travaux, on peut en conclure que quelques ouvriers périront, victimes d'accidents du travail, on ne mérite pas plus que ceux dont l'initiative ordonne les travaux d'être traités d'assassins. Rien ne prouve que la mortalité n'aurait pas été plus grande chez les ouvriers inoccupés ou occupés ailleurs. Substituer à cette incertitude une prévision relativement précise augmente nos connaissances sans faire de tort à personne. Il faut seulement prendre garde de ne pas tomber dans un travers trop répandu. Bien des personnes redoutent d'autant plus les inconvénients et les dangers s'ils sont mieux connus. Elles seront effrayées par une statistique précise des accidents de chemin de fer et ne penseront pas aux accidents moins soigneusement relevés atteignant les personnes qui se promènent tranquillement à pied dans les rues ou sur les grandes routes. L'ignorance peut être commode pour ceux qui pratiquent cette politique d'autruche. Elle n'est jamais désirable pour ceux qui préfèrent voir clair et ne se laissent pas influencer par la connaissance plus exacte qu'elles acquièrent d'un danger possible lorsque sa probabilité est notablement inférieure à celle des dangers inconnus auxquels les hommes les plus timorés s'exposent tous les jours.
Émile Borel écrit cela en 1908, vous allez me le présenter, chers invités, mais je voudrais noter tout de suite, pour que ce soit au cœur de nos dernières vos dernières interventions et mes derniers étonnements, que dans ce texte, Borel dit justement, alors que tout à l'heure vous m'expliquiez que l'instabilité est très angoissante, elle a été longtemps en physique, c'est ce que vous m'avez dit, et bien finalement la petite stabilité que donnent les statistiques qui fait qu'on peut un peu évaluer les risques, on n'est pas dans l'incertitude totale, alors celle-là elle peut aussi bien nous faire peur si on sait qu'on est dans une catégorie qui a un risque fort d'avoir telle ou telle maladie ou tel accident. Le psychisme est très compliqué aussi, lui. Hein. Laurent Masliac, Borel, qu'est-ce qu'il nous dit là?
Alors, Borel, pas peur Borel est... Oui, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, la bonne attitude, hein, c'est ce qu'il dit dans un autre texte, la bonne attitude du marin, c'est d'avoir des informations de type statistique, disons, sur le type de tempête, pour faire face à la tempête. C'est une façon de dire, ce n'est pas que l'instinct qui doit nous guider. C'est le calcul des probabilités, les statistiques nous donnent une façon rationnelle de faire face aux risques. Et de ce côté-là, donc Borel est vraiment un cas tout à fait intéressant, sans doute celui qui a fait qu'on a fait des probabilités en France, en tout cas au XXe siècle, en tout cas dans le champ scientifique, dans le champ mathématique. Lui justement franchit le seuil. C'est-à-dire que lui considère que la le calcul des probabilités est devenu un outil à notre disposition, un outil de la rationalité pour faire face à la question du risque dans tous les sens. Alors on a beaucoup parlé de la physique et Borel va s'intéresser à la physique, mais cela dit effectivement une chose intéressante parce que Borel est aussi quelqu'un qui veut prendre une parole que j'appellerais politique. Il va devenir d'ailleurs un véritable homme politique hein, après la Première mondiale. Il a été ministre pendant un an. Il a surtout été député pendant 12 ans, hein, député de l'Aveyron, de sa ville natale, hein, de Sainte-Afrique. Il a été maire pendant très longtemps de Sainte-Afrique. Mais dans la révolution probabiliste de Borel, hein, qui se produit en 1905, c'est très intéressant de voir comment ça se cristallise, il y a cette idée que dans la société moderne, moderne et industrielle, la question du risque de masse, en fait, est devenue une question absolument prégnante pour le citoyen, et que seule la probabilité, seules les statistiques appuyées sur les probabilités peuvent donner un outil justement rationnel pour faire face au risque. Et donc en fait c'est assez drôle parce que juste avant vous demandiez si aujourd'hui on peut considérer que maintenant tout le monde accepte disons cette présence probabiliste dans un sens. Alors certes Borel écrit en 1908 mais on pourrait l'écrire aujourd'hui et même tout à l'heure ce qui était dit par la question qui était posé dans l'émission Les Petits Bateaux, qui montre que effectivement on continue à avoir cette attitude psychologique de penser que parce que le 1 est sorti la semaine dernière, eh bien cette semaine il va avoir moins de chances de tomber. Et cette ignorance hein, qu'évoque Borel justement.
Parfois on aimerait plutôt l'ignorance.
Oui, et puis surtout, on aimerait croire croire quelque chose qui nous arrange, en fait.
Voilà, je vous laisse conclure d'ailleurs sur ce trait psychologique qui est que on préférait ne pas savoir certaines choses.
Oui, je dirais que.
Mathilde Escudero.
Je dirais pour conclure que, en effet, ce que montre ce texte, c'est que l'ignorance rassure et la connaissance effraie. Et je pense que ça a de nombreux échos aujourd'hui. Si on pense au réchauffement climatique, en un sens, on peut se dire que ce danger qui est mesuré est en réalité moins grand que d'autres dangers qu'on ignore. Mais malheureusement, comme vous dites, il y a peut-être un biais psychologique qui fait qu'on est plus rassuré par l'ignorance que par la connaissance.
Alors que les physiciens, normalement, ça a longtemps été le contraire, ils préféraient savoir que être rivé à l'ignorance et au hasard.
C'est vraiment les scientifiques l'opposé. Préfèrent savoir, au contraire. ils ont cette tendance-là. Mais
c'est ainsi
que les hommes sont
faits. La science avance.
Et voilà.
And throw dice. I was just there.
Allez, un peu de rock aujourd'hui. C'est ce qu'on a décidé après les probabilités. C'était Bob Seger, Rambling Gambling Man, l'homme qui vagabonde et qui joue. Bob Seger en 69, quelques années avant de fonder le groupe Silver Bullet Band. Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez été extrêmement pédagogue et chaleureux, je trouve, Laurent Masliac et Mathilde Escudero, dans vos explications sur les probabilités. À présent, il est temps de retrouver Frédéric Worm. Cette semaine, il se demande ce qu'est un monde, comment va le nôtre. Voici le pourquoi du comment.
Comment construire l'ordre du monde ? Lorsque l'on parle du monde aujourd'hui, c'est très souvent avec une ambivalence. D'un côté, nous disons, c'est peut-être la première phrase, rien ne va plus dans ce monde, le monde est déréglé, le monde va mal. Et par là, nous entendons à la fois des dangers du monde, du milieu humain en tant que milieu justement interhumain, en tant que milieu moral, social et politique, le monde se dérègle, c'est la guerre qui revient, mais nous entendons aussi les effets sur le monde naturel, et nous avons raison d'employer ce même mot pour toutes ces dimensions, même s'il faut les distinguer. Il faut entendre par monde le milieu de la vie humaine dans toutes ses dimensions, or les humains vivent effectivement dans plusieurs dimensions, et meurent aussi dans plusieurs dimensions, et sont fragiles dans plusieurs dimensions. Nous pouvons mourir aussi bien d'un réchauffement induit par la nature, d'un tremblement de terre, que d'une catastrophe humaine et guerrière, et du mélange des deux qui est le réchauffement climatique engendré par l'absence de soins humains du monde. Ainsi, nous vivons dans plusieurs dimensions dont un point commun aujourd'hui et qu'elle se dérègle. Et donc nous retrouvons aussi par là l'un des sens du concept de monde depuis l'Antiquité, qui est la notion d'ordre. Le monde, comme le cosmos, c'est l'univers en tant qu'il est ordonné. La nature, ce sont les lois de la nature. Le monde, c'est l'ordre. Un monde déréglé, ça n'est plus un monde du tout. Nous n'avons plus de repères. Le monde peut-il être absolument déréglé ? C'est d'ailleurs une question. L'ordre du monde peut-il être absolument défait ? C'est une question. L'ordre de la nature sera toujours respecté. La nature même sera détruite selon les lois de la nature. C'est parce que le réchauffement est régi par des lois qu'il va détruire les conditions de la vie sur la planète. Donc, le monde ne peut pas être entièrement détruit et pourtant l'ordre du monde dépendant des humains est en effet destructible et fragile. Il faut donc reconstruire un ordre du monde. Mais cette notion nous fait peur aussi, car l'ordre du monde a souvent été une notion utilisée par certains pour dominer les autres. Le nouvel ordre du monde, ça a été le mot d'ordre de certains pays plus puissants que les autres, de superpuissance pour dominer le monde entier. Construire l'ordre du monde, c'est plutôt construire une entente mondiale des êtres humains contre certains dangers communs. Ce n'est pas construire un monde qui se superposerait aux autres, un monde qui dominerait tous les autres. C'est plutôt retourner vers cette fragilité des milieux de vie humains dans toutes leurs dimensions naturelles et politiques. Construire l'ordre du monde, c'est avant tout s'opposer à des désordres qui sont destructeurs. Ce n'est pas imposer un nouvel ordre supplémentaire à tout le monde, c'est au contraire maintenir les conditions de possibilité du monde commun, du monde à toutes ses échelles, et entre le monde global naturel et le monde cosmopolitique, il y a bien sûr aussi le monde de chacun, cette petite sphère de chacun dans son cadre de vie avec ses limites, mais qui communique avec tous les autres. Nous avons besoin aussi de nos petits mondes. Le monde ne survivra pas si l'on ne préserve pas les mondes aussi divers et variés de chacune et de chacun. Le monde global ne survivra pas sans les mondes de chacun d'entre nous.
Merci Frédéric Worms, nous sommes votre chronique et notre émission consultable, accessible sous forme de podcast donc sur l'appli Radio France et sur le site franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Riyad Kera à qui on doit le rock, avec à la technique Mineta Djawara. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Nassim El Kabli, Corinne Amar, Axel Dubois et Victoire Mellet. Vous êtes sur France Culture, vive la curiosité.